M. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion qui reçoit une fois par mois le réseau paysan et rural CIVAM du Finistère, ses adhérentes et adhérents qui viennent nous parler de leur quotidien agricole. Aujourd'hui c'est pour de faux et pourtant on va parler vrai. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de faire ce jeu de mots douteux. Nous allons réhabiliter la faux. Oui, c'est vrai que quand on pense à cet outil avec son long manche, sa poignée, sa lame courbe, en Bretagne, on visualise plutôt l'encou sur sa charrette qui vient chercher les âmes des morts. Ça fait un peu froid dans le dos. Ou alors, on peut visualiser les fenaisons d'antan quand tout le village se rassemblait pour faire les foins sous le soleil. Avec le CIVAM, on s'oriente plutôt vers cette option aujourd'hui, car figurez-vous que la faux revient. Le CIVAM du Finistère va même proposer à ses adhérentes et adhérents une formation à l'utilisation de la faux. Nous avons avec nous Sophie Pathé, la coordinatrice du CIVAM, et une militante de la faux, Julie Ribiella, qui est boulangère, agricultrice, salariée à Briec, qui va former ses collègues avec un paysan boulanger de Banalec, Sébastien Furic, au mois d'avril. Bonjour.
Bonjour Véronique.
J'ai dit une bêtise.
Oui, Sébastien, il n'est pas paysan boulanger.
Il est paysan, tout court. Non, c'est bien, ça nous fera de la diversité. Alors, Sophie, la faux, est-ce que c'est vraiment un phénomène au CIVAM du Finistère et pourquoi?
Ah bah oui, nous on a été agréablement surpris en fait quand on a eu plusieurs personnes en fait à nous solliciter pour organiser une formation sur l'utilisation de cet outil. Et puis bon, on a tout de suite trouvé dans des ressources et des paysans formateurs militants, comme tu l'as exprimé tout à l'heure, en fait, pour former à l'utilisation de cet outil. Et puis là, au vu des inscriptions de la formation qui a lieu en avril, qui était réservée pour 10 personnes, en fait, on a le double. Et donc, on a dû réouvrir une deuxième session de formation pour pouvoir accueillir tous ces apprenants motivés.
Et tout profil d'agriculture
On a tout profil, effectivement, même des gens à la retraite qui sont intéressés pour l'entretien de chez eux, en fait, aussi. Tout profil des hommes, des femmes, en élevage, en maraîchage, en plantes médicinales. Vraiment, c'est très divers.
Alors Julie Ribiella, comment est-ce qu'on devient militante de la faux comme ça?
En fait, j'ai commencé à m'intéresser à la faux un peu par hasard. Je me suis intéressée au fromage, pour commencer.
On comprend bien. Sur Radio Évasion, on comprend très bien.
À l'époque, j'étais en Limousin et j'avais mon premier emploi agricole dans une ferme avec 150 Primolstein. On faisait du gouda et une sorte de Saint-Nectaire. C'était une ferme qui avait été reprise, on était 12 jeunes, dynamiques et ultra motivés pour reprendre cette ferme qui était un peu loin de nos convictions paysannes, on va dire.
Parce que Limousin, on pense Limousine, vache à viande, tout ça.
Ouais, c'était une famille hollandaise qui était venue s'installer.
Ah ouais. Oui, Primolstein, d'accord, on comprend. Ouais.
Et ça casse quand même pas mal de clichés. D'avoir été là-bas, ça casse quand même pas mal de clichés qu'on peut avoir sur des troupeaux aussi gros. En tout cas, les dynamiques collectives étaient hyper intéressantes. Mais en termes de pratique agricole, je ne m'y retrouvais pas vraiment et j'étais quand même assez curieuse parce que je ne suis pas du tout issue du milieu agricole. Alors j'ai décidé de partir à vélo, rencontrer des éleveurs de vaches qui avaient des troupeaux inférieurs à 20 vaches. Je suis partie de Nantes et je suis arrivée en Angleterre. Et là, j'ai rencontré Simon Fairley sur un collectif dans le sud de l'Angleterre. Où lui, il a donc deux vaches.
Deux ? Oui, c'est vraiment beaucoup, là.
Et il fait ses foins à la faux, et ça a été un des premiers revendeurs de faux en Angleterre. Donc, il a commencé, j'essaye de ne pas dire de bêtises en termes de date, mais au début des années 2000, à revendre des faux.
Oui, parce que j'imagine qu'il ne peut pas vivre qu'avec ses deux vaches, donc il faut qu'il fasse d'autres activités.
Oui, alors après, la question de l'argent, c'est une communauté, un collectif de travailleurs.
D'accord.
Qui ont des activités agricoles et à la fois d'éducation.
Ah ouais. Ils sont en autonomie, autoproduction.
Ouais, c'est pas de l'autonomie totale, mais il y a une part des revenus qui rentre de l'extérieur par le biais d'une chambre d'hôte, et après ils ont quand même une production au maximum sans énergie fossile.
Pour eux.
Mmh. Pour eux.
Ok.
Voilà. Et donc, bref, il s'est retrouvé à revendre des faux. Et en arrivant là-bas, moi je l'ai rencontré, j'ai été hyper touchée en fait par ce système-là, parce que c'était assez fort. Je suis arrivée pendant la saison des foins et je me
retrouvais... C'est quoi, c'est mai-juin la saison des foins en
gros ? Ouais, c'était juin, juillet, en Angleterre il pleut quand même. Oui, c'est vrai. Ça donnait des journées où en fait je me levais le matin à 5h, voilà, le soleil se lève, on part dans les champs, on prend la faux. Et on va couper de l'herbe jusqu'à 8 heures. On s'arrête parce qu'il faut aller traire les vaches. Donc, on va traire les vaches à la main.
Waouh.
Après, on ramène le lait et on va en fromagerie. Et puis, avec du lait de report, on commence à faire du fromage. Et puis, entre-temps, sur les temps de pause, on est toujours quelques faucheurs à aller faner. Ouais. Il y a un peu un truc assez fort, quoi, quand le soir, on se retrouve autour du repas et qu'on a les saucisses grâce aux cochons qui ont été nourris avec le petit lait, qu'on a un bout de fromage. Enfin, il y avait un truc hyper fort d'avoir accès à tout le cycle et de se dire que c'était possible grâce à l'énergie, aux propres calories que j'étais capable de dépenser moi, en fait, à ce moment-là. Et puis, il y avait toute la dimension sociale aussi qui était très forte. Et de là, je me suis dit, waouh, mais en fait, j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur cet outil, parce qu'il y avait à la fois une puissance matérielle et une puissance sociale derrière cet outil-là.
Quoi. Ah ouais. Et donc, vous avez continué à pratiquer la faux
Je suis rentrée. Alors, j'ai un petit terrain d'expérimentation chez moi. Et après, j'ai cherché à rencontrer aussi d'autres personnes qui fauchaient pour pouvoir aussi un petit peu pratiquer. Et j'essaye de retourner en Angleterre pour la saison des foins.
Ah ouais,
c'est ça. Et cette année, j'espère pouvoir partir en Roumanie au mois d'août.
Ah oui.
Aussi pour aller faucher.
Il fauche beaucoup encore à la faux en Roumanie, c'est ça ?
Beaucoup, je dirais pas. Plus qu'en France, oui. Plus qu'en Angleterre, c'est sûr. Après, comme partout, les productions vivrières et les petits paysans, ils sont
ils disparaissent
dans des situations plutôt complexes en ce moment.
Oui. Et il existe, je crois qu'il existe des faux électriques, je sais pas, qui sont pas manuels, mais ça existe apparemment. Mais là, il était bien question de faux manuels.
Oui, bien sûr. Ouais. C'est vraiment l'idée, c'est un manche, une lame. Après, voilà, c'est. Dans mon apprentissage, il y a eu un truc très fort aussi, c'est de se rendre compte, waouh, mais quel outil puissant. Et puis couper, et après se dire, mais en fait, c'est super, mais il faut savoir l'entretenir.
C'est ça aussi, ouais, tout à fait. Et ça sera d'ailleurs un des sujets de cette formation. Sophie, donc il y a 20 candidates et candidats pour cette formation à la faux, mais c'est des gens qui ne pratiquent pas la faux, justement, dans leur quotidien agricole, je suppose.
Si. Alors, j'ai pas l'information pour tout le monde, mais je crois pas. Ouais.
Ouais.
Je pense que peut-être que certains ont vu leurs parents faire ou leurs grands-parents faire. Peut-être que enfants ils ont peut-être essayé, mais je pense que l'usage et la technique elle est complètement abandonnée.
Ouais.
Il y a cette envie quand même de retravailler avec un outil comme tu le disais Julie qui n'utilise pas en fait les énergies fossiles.
C'est ça.
quand même, ça c'est qui est pas invasif pour le sol aussi.
Ah oui.
Il y a pas de compaction avec comme des outils comme des tracteurs et d'autres.
Oui, ça n'écrase rien, quoi. Voilà. Oui, à part les pieds.
Et puis qui est silencieux aussi. Je pense que ça c'est quelque chose. Comme tu dis, dans l'esprit communautaire, il y a quelque chose, je pense, dans le la coupe.
Oui. Ouais, il y a un bruit quand même.
Il y a un bruit. Il y a aussi. La synchronisation, c'est quelque chose que souvent, quand je discute de faux, en fait, il y a des gens qui utilisent la faux,
ouais.
Quand même. Par exemple, pour les dessous de clôture ou pour des ronciers. Après, très vite dans le débat, on se rend compte que c'est pas forcément avec un matériel qui est adapté. Il y a une image de quelque chose qui est quand même assez difficile. Bon, c'est pas une balade au bord de la plage, mais c'est pas non plus des travaux d'Hercule qui sont faits à la faux. Enfin, c'est quand même un outil, quand on sait l'entretenir, qui est facile à prendre en main, on va dire.
Oui, il y a un geste, le geste auguste du faucheur ou de la faucheuse, c'est comment
quel mouvement c'est un mouvement de balancier, on fauche pas avec les bras. Les bras portent l'outil et encore la lame repose au sol, donc c'est quand même assez léger. En plus, maintenant, les outils qui sont proposés par ce sont hyper légers.
Ah oui.
Et après, c'est un mouvement du bassin en fait qui va venir faire comme un balancier et. Ça fait un arc de cercle.
Et on peut apprendre à faucher des deux côtés pour pas être tout le temps, pour pas être un peu tordu, quoi.
Eh ben, moi j'ai envie de dire non. Je suis pas. Il y a des faux pour gaucher. Je suis pas forcément pro faux gaucher. Ça existe. Il y a des gens qui aiment ça parce qu'ils ont par exemple des difficultés d'un bras, etc.
Ah oui, c'est ça. Oui.
C'est quand même pas mal pour eux. Mais moi, ce qui m'importe, c'est aussi la dimension sociale en fait de cet objet-là et de l'importance des travaux collectifs. Et quand on travaille à plusieurs à la faux, on a besoin de faucher du même côté, sinon on coupe les pieds de l'autre.
Et ça. C'est un petit peu dangereux, il faut le dire.
Il y a cet aspect-là et il y a aussi où est-ce que l'herbe elle va être reportée. En fait, c'est toujours l'herbe, on la coupe et elle va venir être déposée. Quand on fauche avec une faux classique, elle va être déposée sur la gauche, si on fauche avec une faux de gaucher, elle va être déposée sur la droite.
Ah oui.
Donc en fait, pour tout le traitement de l'herbe ensuite...
Le ramassage, tout
simplement. Le fanage, c'est ça.
Oui.
C'est important de faucher du même côté, en fait.
D'accord. Et on peut faucher à... Enfin, quand vous le faisiez en Angleterre, vous étiez combien à faucher en même temps sur
Ça dépendait de qui est-ce qui avait la motivation de se lever le matin. mais je pense qu'on a fauché jusqu'à 8, 9. Et c'est des moments très chouettes. On n'arrive pas toujours à tous se synchroniser et à faucher vraiment en même temps. Mais il y a eu des beaux instants de fauche où justement, en fait, on prend... L'idée, c'est de prendre la cadence sur celui qui rentre dans le champ et il y a vraiment une respiration parce que c'est pas une pratique qui se fait on cherche pas à faire une performance qui est rapide plus on va tenter d'être rapide, plus on va s'essouffler et plus notre performance elle va chuter.
Donc finalement ça peut aller assez vite quand même quand on est 8. Combien de temps il faut pour une parcelle moyenne, enfin je sais pas, là c'est pareil hein. Tout est question de surface, mais enfin
Il y a question de surface, question du type d'herbe, question de qu'est-ce qu'on veut faire de l'herbe. En fait, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et c'est souvent la question qu'on pose. Alors, combien
ça prend du temps.
Combien on peut faucher une personne. Alors, là, moi, je suis un peu... J'ai vraiment un problème avec les surfaces et les chiffres et tout ça. Du coup, quand j'ai appris qu'il y avait cette émission, j'ai envoyé un mail à Sébastien Furic, qui est beaucoup plus pointilleux sur les chiffres. Et il me dit, bon, une réponse un peu standard, on va dire, qu'on peut donner, c'est entre un demi... hectare et la moitié d'un demi-hectare pour une personne seule.
Oui. Oui.
Après, il y a plein de paramètres à prendre en compte, comme par exemple, est-ce qu'il fait super chaud? Est-ce que l'herbe, elle va sécher vite ou pas? Parce que...
Oui.
Comparé à la tondeuse, par exemple, la faux va complètement à l'inverse de ce qu'on peut penser de nos réflexes. On se dit « Ah non, zut, il fait humide, je ne vais pas du tout pouvoir aller tondre, ça va bourrer ma tondeuse. »
Ah bah oui, alors que la faux, il vaut mieux en fait que ça soit humide.
Ouais.
Pourquoi ?
La rosée du matin, où l'herbe humide, en fait, elle glisse mieux sur la lame. Et de l'herbe sèche ou ligneuse, elle va émousser la lame. On va devoir affûter plus souvent, battre aussi la lame plus souvent, du coup.
Ah oui, mais ça marche, ça fonctionne quoi, je veux dire, ça coupe.
Ah mais ça coupe, hein. Ça coupe, c'est impressionnant, une faux hyper entretenue,
c'est ça.
On peut faire du gazon à l'anglaise sans problème avec une faux très
bien. Oui, donc c'est intéressant aussi pour les jardinières et jardiniers ordinaires que nous sommes, d'avoir sa faux bien entretenue.
D'autant plus pour du gazon, c'est hyper important.
Oui, et donc ça peut travailler tous les types d'herbes, une faux.
Ouais. Je pense que ouais, après ça dépend vraiment de comment on entretient sa lame. Quand on va par exemple s'attaquer à un champ de trèfle, mettons,
allons-y,
hyper tendre, bon ben là on peut avoir une faux qui est très bien battue, extrêmement fine, bien affûtée. Voilà, là ça va couper, ça va être une sensation incroyable. On aura l'impression plus de faire du tai chi.
Oui, ça, il y a un côté chorégraphique, ça, si je comprends bien, dans le fauchage.
Voilà, c'est ça.
C'est une danse.
Là, c'est vraiment, ça va être de la fauche plaisir, méditative, bien sympathique.
Ouais.
Après, quand on s'attaque à des choses plus ligneuses, par exemple, la fauche de fin de saison.
Du chien d'an, des trucs comme ça, quoi. C'est ça, des graminées.
Ou alors des gros dactyles qui ont été laissés jusqu'en septembre, octobre, et que là, on se dit, oh là là, bon.
La fauche de tout ça.
Ouais. Et ben là, on va pas du tout avoir la même préparation pour la lame.
Ah oui.
Parce que si on a une lame qui est trop fine, trop bien affûtée, ce qui va se passer, c'est qu'elle va s'émousser très rapidement. Si l'herbe est trop ligneuse, on peut aussi créer des petits dommages sur la lame, et ce n'est pas du tout ça qu'on veut, quoi.
Et est-ce qu'il faut avoir plus, quand on décide vraiment de travailler à la faux, est-ce qu'il faut avoir plusieurs lames interchangeables, enfin...
C'est possible. Moi, je travaille avec deux lames. J'ai une lame qui est plus pour les ronces, les orties, s'il y a des petites repousses d'arbres aussi.
Ah ouais, donc pour le costaud.
Ouais, voilà. Où je me dis, c'est pas grave, celle-là, je vais pas faire dans la dentelle, quoi.
Ok.
Et pour plus la pelouse ou les prairies, j'ai une lame qui va être plus longue, plus fine, et où je vais être vraiment attentive à l'entretien que j'ai, à la finesse du battage.
D'accord. Et dans l'entretien, il y a aussi... est-ce qu'on doit enduire la lame de quelque chose ? Enfin, je ne sais pas, il n'y a pas que l'affûtage
Alors, c'est possible. Il y a plusieurs écoles. Par exemple, là, j'ai été rencontrer Emmanuel Aublin, qui est le premier revendeur de faux en France, qui a cédé, qui est passé à Norbert Pajot maintenant. Mais, et lui, il enduit ses lames de graisse.
Mmh.
Voilà. Après, je me suis déjà retrouvée à huiler des lames à l'huile de lin pour passer l'hiver.
Oui, c'est ça, avant l'hiver.
Voilà. Après, là, récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais plus qui c'est, que avec sa lame, si on a un chiffon doux,
oui,
et qu'après chaque fauchage, on passe son chiffon doux sur sa lame, elle sera rutilante.
Bon. Et alors, elles sont en acier, ces lames, c'est ça ? En quoi elles sont ?
Ouais, c'est des aciers. Alors, les compositions, moi, je vais passer mon tour sur cette question.
Non, parce qu'il faut qu'on s'intéresse à l'objet lui-même, c'est-à-dire vous parlez de revendeurs, de revente de faux, mais enfin, elles viennent d'où ? Elles sont fabriquées où ? Il y a ça aussi, c'est une question
Alors, il y a plusieurs endroits où on peut trouver des faux de différentes qualités. Quand on va aller dans des grandes surfaces du jardinage, ce qui va se passer, c'est qu'on va trouver des faux. C'est de la marque Revex, je crois. Je ne sais pas si on a le droit de citer des marques ou pas.
Mais... Si, on peut, mais.
Okay.
Ouais. Bon. C'est toujours la même marque.
C'est toujours la même marque, de toute façon. Il va y avoir écrit faux, mais ce sera plutôt des fauchons.
Ah.
Donc, ce sera plutôt fait pour s'attaquer à des ronces, à des trucs très ligneux. Vous pourrez taper autant que vous voulez sur votre lame, ce sera quand même difficile d'avoir une finesse suffisante pour faire de l'herbe et en tout cas avoir une expérience agréable et efficace de coupe d'herbe. Ensuite, les manches, ils sont souvent sous-dimensionnés, donc on peut essayer de les régler, mais en termes d'ergonomie, c'est pas le top.
Ah oui. Il faut que ça soit long. Long comment, un manche, idéalement ?
Eh ben, il y a des manches, par exemple, pour ma taille, je fais 1m57, mon manche, il fait 1m50.
Ouais, quand même.
Voilà, et ça va jusqu'à 1m70, 1m80, la taille des manches. Alors après, il y a des possibilités de réglage. Et c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, il y a plusieurs, je crois qu'il y a deux revendeurs en France. Et c'est du matériel qui vient d'Autriche pour les manches. C'est les manches, Fuchs. Et après, il y a deux fabricants de lames. En tout cas, qui sont revendus en France, c'est Falchi, qui sont des lames italiennes, et Fuchs. Ils ont un peu, en fait...
Donc après, ça vient d'Europe, quoi. Enfin, c'est ça... pas fait en Chine, déjà, quoi.
Non, c'est pas fait en Chine. Après, moi, là, j'en ai ramené de Russie pour voir, à titre comparatif aussi. Enfin, voilà, il y a aussi des lames qui sont fabriquées en Turquie, qui n'ont pas du tout les mêmes formes, en fait. C'est assez intéressant de voir, chez les fabricants, les différentes formes. En fait, il y en a des dizaines de formes différentes adaptées à différents usages. Oui. Ça, c'est quand on rentre dans un truc un peu plus pointilleux. Pendant la formation, on va proposer d'essayer différents types de lames, mais on ne sera pas du tout sur le panel aussi large que ce qu'on peut trouver, parce que c'est aussi aux faucheurs d'expérimenter et de se rendre compte de quoi il a besoin, en fait.
Ouais. Oui, c'est ça. Mais d'où l'intérêt d'une formation comme celle que propose Jessivam. Mais donc, ça veut dire qu'elles sont encore fabriquées. En tout cas, c'est ça que je veux dire. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des usages. La faux, c'est pas si tombé dans l'oubli que ça, finalement.
Alors non, ça a pas été oublié. Il y a une personne qui a fait un gros travail là-dessus et qui avait des convictions très, très fortes par rapport à ce que représente l'outil, qui s'appelle Peter Vidot, qui est un Américain. Et si aujourd'hui, Fuchs continue à fabriquer des lames aussi qualitatives, c'est notamment grâce à son travail. Et si aussi il y a des manches qui sont aussi ergonomiques, c'est aussi grâce à lui. Lui, il avait un peu la conviction que la faux pouvait changer, en fait, pouvait être un outil de révolution.
Dans quelle période déjà
C'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était dans les années 90, je crois, 90,
oui, quand même,
2000.
Ça fait une trentaine d'années, donc.
Ah ouais. Oui, c'est vrai.
Et donc, dans quel sens c'est là qu'on en arrive finalement au sujet presque philosophique, c'est-à-dire, la foule, on peut voir ça comme un retour à la bougie, mais non, en fait, ça serait plus que ça, ça serait...
Je pense que, comme moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la foule, très vite, il y a une multitude de questions qui vient derrière. Il y a la question du temps qui est posée, la question de l'énergie. Comment est-ce que, quelle énergie j'ai besoin ? Il y a la question de l'autonomie face à l'outil. Finalement, c'est un outil aussi avec un marteau, une enclumette. On est capable d'entretenir cet outil. On n'a pas besoin d'avoir une mallette mécanique, connaître le base de la mécanique de la débroussailleuse, par exemple.
On n'a pas besoin d'avoir un prestataire extérieur qui vient pour l'entretien de la faux.
Voilà, il y a vraiment ce truc-là. Après,
on peut économiser de l'argent, même si on achète une faux super qualitative, on économise de l'argent, quoi, c'est ça,
en fait. Je pense qu'il y a une économie d'argent qui est faite. Et il y a aussi la question de d'où vient l'énergie, parce qu'on peut avoir l'impression qu'on gagne. Enfin, moi, j'ai un peu ce rapport aux choses où je me dis, par exemple, si j'utilise une débroussailleuse, ça m'est déjà arrivé.
Oui, on comprend. Ça peut être tentant quand même, la débroussailleuse.
Non, mais ça peut être tentant. Et le tracteur, c'est pareil, en fait.
Oui, on n'est pas là pour dire.
Voilà, il n'y a pas du tout, en tout cas dans le monde actuel, à prôner une disparition du tracteur. Je ne veux pas du tout que les gens mettent feu à leur tracteur et youhou, tout le monde dans les champs avec des faux. C'est super. Bref.
Mais vous avez vu ce qui avait intéressant dans la faux, quoi.
C'est ça. Ouais. C'est la dimension d'autonomie, et après qui vient questionner mais tout le système de production, en fait. Et donc, quand on rencontre la faux, quand on la voit utilisée pour, par exemple, faire du fourrage, moi, tout de suite, les questions qui sont venues à mon esprit, c'était mais alors, l'agriculture vivrière, est-ce que c'est un truc qui disparaît ? Est-ce que dans le système agricole actuel, où on a peu de personnes qui produisent de la nourriture pour un grand nombre, cet outil n'a pas de sens ?
Non.
Et quand on va en Roumanie, par exemple, oui, où il y a encore énormément de personnes qui pratiquent une agriculture vivrière, cet outil, il fait sens.
Leur potager, quoi. Enfin, ils ont leur potager pour se nourrir, quoi.
Oui, ils ont potager. Il y en a qui ont des petites surfaces de céréales. Il y en a qui font leur fourrage pour des bêtes. Et il y a quelque chose qui fait sens. Et pour moi, personnellement, après, c'est juste mes convictions à moi, mais c'est une forme de liberté énorme que de se dire, je suis maître de mes moyens de production à mon échelle, et je n'utilise pas de l'énergie produite par d'autres personnes. Alors, c'est dans un cadre qui peut paraître complètement utopique Et voilà, aujourd'hui, on n'en est pas là du tout. Hein, c'est pas. Ouais. Mais non, cet outil-là éveille
c'est ça.
Ces questions-là.
Et puis, ça tisse du lien, vous disiez, voilà, entre tous les faucheurs. Enfin, c'est des bons moments aussi que vous avez passés, c'est
oui.
ça
Oui, oui, c'est des bons moments. Après, il ne faut pas non plus minimiser l'effort que c'est. Parce que, moi, par exemple, je fais du pain aussi. Et je trouve que ouais. le point commun entre la fauche quand on veut faire du fourrage et le pain, c'est qu'à partir du moment où on a mis le levain ou à partir du moment où on a commencé à couper l'herbe, il peut y avoir n'importe quelle autre sollicitation. En fait, il faut aller la retourner, l'herbe, et puis il n'y a pas le choix.
Il faut y aller, quoi. Ouais. Oui, parce que vous pétrissez le pain, il faut préciser ça
oui,
aussi.
Oui, mais même n'importe qui. Ouais. Les personnes qui travaillent avec du levain... En fait, il y a un peu ce truc, on est dedans et il faut aboutir la démarche, quoi.
Ça n'attend pas, très bien. Bon, et ben, Sophie, un petit mot pour conclure sur cette formation faux en avril.
Et ben, ouais, c'est une grande première aussi pour nous, même si effectivement, comme vous l'avez signalé, on fait aussi, ça fait déjà peut-être 5 à 10 ans qu'on fait des formations sur la traction animale, en fait, aussi, qui vient aussi dans ce renouveau aussi de l'utilisation d'outils. On est très contents de pouvoir faire cette formation et peut-être d'autres, on espère.
Bah oui, on vous tiendra au courant et puis on retrouvera le CIVAM du Finistère dans le mois prochain. Le prochain LEM, ce sera le 13 avril. Merci à toutes les deux. Merci. Au revoir. Dans un instant, c'est la deuxième partie de LEM avec un portrait du tilleul, des cyclistes pleins d'énergie.